au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Mes invités d'aujourd'hui, le professeur Alain Gras et Christian Laval, que je vais vous présenter dans quelques instants, plaident l'un et l'autre, à partir de points de vue originaux, pour une autre idée du progrès. Thème doublement dans l'actualité, certes au niveau français, confère le Grenelle de l'environnement, mais aussi au-delà de nos frontières, le surprenant succès du film d'Al Gore, le candidat président américain malheureux, Une vérité qui dérange, en est la parfaite illustration, de même que son prix Nobel. Ce sujet s'inscrit au cœur du doute grandissant qui s'est emparé du monde occidental sur la pertinence de son modèle dominant, le capitalisme libéral, et sur ses effets pervers qui menacent même l'existence de la planète, confèrent les déséquilibres financiers et monétaires internationaux. Cette norme unique d'existence des êtres et des biens, là je cite le professeur Laval, est en effet un peu plus chaque jour remise en question, non seulement par les intellectuels, mais par le reste du monde, expression groenlandaise qui, au-delà de sa connotation humoristique, évoque l'ampleur du sujet. Les récentes et remarquables parutions de nos invités nous serviront de fil d'Ariane pour porter notre réflexion. Je les rappelle, L'homme économique, essai sur les racines du néolibéralisme, paru chez Gallimard par le professeur Christian Laval, et le professeur Alain Gras, lui, a fait paraître Le choix du feu aux origines de la crise climatique, chez Fayard. Je vous propose que notre réflexion s'inscrive sur trois axes. La première, c'est l'aspect théorique, la notion économique et philosophique du progrès. La seconde, c'est la réalité, c'est-à-dire le constat des grandeurs et des misères du progrès dans le monde occidental et à l'échelle de la planète. Et enfin, troisièmement, nous essaierons de voir ensemble quelles sont les voies et les moyens pour faire mieux et probablement autrement, c'est-à-dire une autre idée du progrès. Alors, avant d'entrer directement dans le débat, je voudrais présenter nos interlocuteurs qui ont en commun de nombreux points, notamment d'être auteurs et universitaires. Alors vous, Christian Laval, vous êtes porteur d'une culture multidisciplinaire, vous êtes chercheur, historien de la philosophie, sociologue, universitaire, enseignant à Paris 10 Nanterre. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages depuis 1994. On vous doit notamment une remarquable vulgarisation sur l'économie et l'affaire de tous, qui est parue chez Sidips en 2004. Vous êtes le grand spécialiste de l'œuvre de Jeremy Bentham, le philosophe réformateur anglais du XVIIIe, le père de la notion d'utilité dans l'économie politique. Vous êtes par ailleurs très engagé dans la réflexion portant sur l'école et la sociologie. Pour preuve, plusieurs de vos parutions, L'école n'est pas une entreprise, paru chez La Découverte, qui fut donc un point d'orgue. Alors, avec l'homme économique, vous déclinez une réflexion très aboutie qui vous permet de développer des arguments pour une remise en cause assez radicale des principes qui gouvernent nos économies libérales. En retraçant un vaste tableau d'histoire et de philosophie, les racines du néolibéralisme, vous donnez à voir la forme, le contenu, la nature et la normativité occidentale moderne, telle qu'elle s'affirme aujourd'hui dans sa prétention à être, je vous cite, « la seule vérité sociale et à se poser en une seule réalité possible ». Nous y reviendrons. Alors, quant à vous, cher professeur Alain Gras, vous êtes l'un des principaux penseurs de la technique en France. Vous êtes professeur de socio-anthropologie des techniques à Paris 1, où vous dirigez le Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques, CEDCOPRA. Vous avez publié une douzaine d'ouvrages, dont La fragilité de la puissance, paru chez Fayard en 2003, et qui a été nominé pour le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière de l'année. Vous avez publié un Que sais-je sur les macrosystèmes techniques, Pouf en 1997, et Grandeur et dépendance, chez Pouf aussi, en 1995. Alors, dans votre ouvrage, vous appuyez sur la richesse de vos travaux pour montrer comment les mythes et les représentations collectives, le progressisme technologique sont à l'origine des crises récurrentes de la planète, énergétique, climatique, environnement. Notre civilisation, dites-vous, qui privilégie la chaleur, le feu, comme principale source de puissance, de progrès, de croissance, s'est engagée sur une voie sans issue qui hypothèque lourdement l'avenir même de la planète, en négligeant à l'extrême les autres sources d'énergie, de l'eau, du vent, de la terre. Le modèle de progrès dominant emprunte les chemins de l'absurde, accentuant la dépendance énergétique et la destruction de la valeur ressource. La mondialisation, vous ajoutez, a eu cette vertu de montrer que notre univers était un monde clos, limité en espace et en ressources. Chaque jour, nous avançons un peu plus vers l'impasse d'un avenir déjà présent et bien sombre. Vouloir éteindre l'incendie nécessite non seulement de changer notre manière d'agir, mais surtout de penser. Aussi, le développement durable reste une fiction qui se limite à réduire l'intensité sans changer de modèle. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Nous allons donc, avant de développer la première partie, vous passer la parole pour peut-être une première réaction sur ce que j'ai pu dire de vos ouvrages. Christian Laval.
Bien, d'abord, je vous remercie de cette invitation et puis surtout de cette occasion qui nous est donnée de réfléchir ensemble sur un point absolument fondamental. Et en effet, je crois que le sujet de ce matin pointe tout à fait, au fond, les questions de l'heure et les questions urgentes. Et dans cet ouvrage, donc, L'homme économique, j'ai essayé d'adopter une démarche généalogique, au fond, de remonter dans l'histoire des conceptions occidentales, en particulier dans le domaine économique et dans le domaine philosophique, de voir au fond où s'enracinaient les croyances qui sont les nôtres aujourd'hui, ou plutôt les croyances qui sont, comme vous l'avez bien dit, qui sont en crise aujourd'hui. Parce qu'au fond, nous vivons aujourd'hui une crise de l'espérance, une crise de la croissance dans la croyance, dans ce progrès. Et je pense que nos démarches avec celle d'Alain Grasse, bien qu'elles partent au fond de perspectives différentes, se nouent, se rejoignent dans cette idée qu'il n'y a rien de plus fondamental aujourd'hui que de remettre en question le fond de nos croyances.
Merci, professeur. Alain Gras, de votre côté.
Oui, ben, j'ajouterais que moi aussi, malgré le titre qui fait référence à des techniques, c'est une exploration de l'imaginaire, de la manière, un petit peu comme mon collègue Christian Laval l'a fait, de la manière dont les individus se sont fourvoyés dans cette impasse du choix du feu. Mais c'est pas la technique en tant que telle qui est l'essentiel, mais la manière dont les hommes ont vu le monde, dont ils ont compris le monde à un certain moment, et dont ils sont tombés dans le piège qui m'intéresse. Et j'ajouterais que justement, c'est le seul côté optimiste que je peux avoir dans mon livre, c'est que ce piège était évitable et que si nous sommes tombés dans ce piège, c'était une question de conjoncture beaucoup plus que par un déterminisme, enfin pas du tout par un déterminisme historique qui donnerait la technique, la clé de l'histoire du monde.
Bon, alors nous allons rentrer directement dans le cœur du sujet et aborder le premier thème qui est celui de la notion économique et philosophique du progrès. Alors, première question que je pose à tous les deux, c'est quoi le progrès ?
Bon, oui. Alors, évidemment, l'idée est immense. Et au fond, il faudrait peut-être distinguer deux choses. Ce que nous, occidentaux, nous avons fini par appeler progrès et qui a donné lieu aux croyances dont je parlais tout à l'heure et, au fond, une aspiration qui traverse de multiples formes imaginaires, de multiples formes de représentations religieuses, etc., et morales, qui relèvent de cet espoir du bien vivre, du vivre bien et du vivre mieux. Je crois qu'il y a eu une série de passages et de ruptures qui ont conduit, au fond, les Occidentaux, les sociétés occidentales, à enraciner sur Terre, si je puis dire, leur aspiration à une autre vie et une vie meilleure. En quelque sorte, il y a une espèce de retour sur Terre, d'immanence, pour employer un terme un peu technique, une immanence au fond de cet espoir. Au fond, c'est ici sur Terre, en travaillant, en produisant, en consommant, que au fond, nous réaliserons ces aspirations fondamentales. Ce qui, évidemment, va de pair avec, d'une certaine façon, le déclin des religions traditionnelles qui mettaient au fond le bonheur, le mot important, me semble-t-il, je crois qu'il faudra y revenir, le bonheur on le déplace en quelque sorte, on le fait descendre de l'autre vie à la vie d'ici.
Alors, voilà donc une première approche. Christian Laval, vous complétez peut-être ce que vient de développer.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais justement, et je crois l'avoir bien vu dans le livre, disons l'aspect religieux, c'est l'aspect qu'avait mis en avant Max Weber. Il est quand même omniprésent dans cette nouvelle histoire du progrès, parce que c'est vrai que le protestantisme puritain donne une idée du salut dans ce monde, mais pour continuer l'œuvre de Dieu, c'est ce que j'appelle le huitième jour de la création, à la suite de notre auteur qui s'appelle Jacques Nérinck, qui avait intitulé un livre comme celui-là. Et c'est vraiment le huitième jour de la création que les protestants ont dans l'idée lorsqu'ils créent cet utilitarisme, cette idée d'un homme intéressé par un seul aspect de lui-même et de son rapport à la richesse. Et quand il crée la technologie qui va permettre la mise en place de ce progrès, quand il va être la machine qui va tirer ce progrès et qui va nous faire concevoir une histoire qui aurait un sens. Parce que précisément, avant, dans la vision augustinienne, par exemple, l'histoire n'a de sens que par rapport au salut que Dieu veut bien nous donner. Mais il n'y a pas d'histoire dans ce monde. Et avec le protestantisme, il y a une rupture qui, à mon avis, est très nette. Et on en parlera plus tard, mais enfin, on croise des protestants qui parlent, qui font des discours dans le livre de Christian Laval, avec ceux qui font des machines chez moi, qui sont...
Okay. Justement, donc ce n'est pas purement intellectuel, mais surtout, là, il me semble important d'essayer de souligner ce que pour l'homme de la rue, tout un chacun, c'est quoi le progrès ? Enfin, pour lui, il le mesure comment ? C'est pas simplement que d'un point de vue intellectuel. Est-ce que ce progrès, Christian Laval, il est mesurable d'une façon égalitaire partout dans le monde ?
Non, mais je crois qu'on le voit bien d'ailleurs dans la façon dont aujourd'hui, si vous ouvrez n'importe quel journal, au fond, on traite de la question, je dirais, de la qualité, si je puis dire, de nos existences individuelles ou collectives. On la mesure, au fond, à un certain nombre d'indices quantitatifs, et ce n'est pointe un hasard si on le fait ainsi, si on parle aujourd'hui de pouvoir d'achat, de niveau de vie, ce qui est évidemment légitime dans ce monde, dans le monde dans lequel nous sommes. Et on voit bien à quel point, au fond, nous mesurons à une certaine valeur, à l'aune d'une certaine valeur qui est une valeur économique. Que pouvons-nous acheter ? De quoi pouvons-nous jouir en termes de biens que nous consommons au détriment de toute une série de choses que nous ne percevons plus comme faisant partie, au fond, d'une amélioration possible ? Je veux dire qu'il est assez évident que nous accumulons des biens de toute nature, que nous les extrayons du sol, que nous les produisons, nous produisons également des services. Mais au fond, c'est un peu comme si la qualité du lien humain, à certains égards, avait beaucoup moins d'importance. Je veux dire, nous ne cultivons plus nos vertus, nous nous interrogeons moins sur, par exemple, la qualité intellectuelle de nos raisonnements. Au fond, tout ce qui pouvait être à un moment donné très important, par exemple pour les philosophes, les anciens, je veux dire, la façon dont nous entretenons les rapports aux autres,
de faire société,
et quel type de rapport à nous-mêmes nous entretenons, c'est-à-dire, au fond, comment nous nous évertuons. Le mot est important, nous nous évertuons au fond à avoir une vie plus riche, je veux dire non pas matériellement mais intellectuellement et moralement plus riche. Au fond, aujourd'hui, ces dimensions-là semblent disparaître et pour des raisons, me semble-t-il, très, très claires. Je veux dire qu'elles participent d'un univers intellectuel, politique et philosophique qui a sa cohérence et qui réduit à extrêmement peu de choses, d'accord, au fond, ces dimensions morales et intellectuelles et culturelles.
D'accord, du progrès. Vous avez quelque chose peut-être à ajouter sur le plan, notamment sur le quantitatif, mais aussi sur l'aspect moral. Le progrès, est-ce qu'il est moral ? Est-ce qu'il est en valeur relative, le même, mesurable par tout le monde, partout sur la Terre ?
Bon, d'abord, la notion de progrès a été inventée au 18e, ou même au 17e, elle commence à apparaître, mais surtout au 18e. Et où là, quand même, elle signifie un progrès moral, un progrès des institutions politiques et sociales. Et par la suite, même au 19e, quand la vague de colonisation du 19e, elle s'accompagne aussi d'une volonté d'amener à la raison les peuples qu'on n'appelait pas sous-développés à l'époque, mais qu'on appelait primitifs ou traditionnels. Enfin. Donc, il y a toujours eu un aspect moral. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on perd totalement l'aspect moral de l'utilitarisme. que vous citez, on l'a totalement perdu aujourd'hui, et de même on l'a perdu aussi totalement en matière de technologie. C'est-à-dire que le progrès aujourd'hui est mené par une technologie qui n'a pas de sens en termes de confort. Par exemple, le nouvel iPod de Microsoft, en quoi cela change-t-il notre vie? En quoi cela est-il un progrès en termes de confort? C'est autre chose que l'on fait valoir comme étant un progrès, mais qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on est dans l'univers du non-sens, alors que il pouvait avoir un sens en termes de confort et en termes d'amélioration des relations sociales au XIXe siècle. Il pouvait encore l'avoir dans les années 60 lors des Trente Glorieuses. Aujourd'hui, il ne l'a plus du tout. Le problème des banlieues, c'est pas le progrès qui va le résoudre.
Tout à fait. Donc, c'est notre façon de faire société. Écoutez, je crois qu'on a balayé les premiers points du contenu du progrès. Ce que je vous propose, c'est qu'on illustre ces premières réflexions en faisant un constat beaucoup plus précis.
Dans un instant, la suite de nos programmes.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean Do, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Donc, on rentre maintenant dans le constat, après le concept. Quelle est la réalité? Alors, ce sont un petit peu les grandeurs et les misères du progrès, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et notamment en termes d'efficacité. Première question, quid de la croissance et du recul de la pauvreté, de l'éventuelle efficacité de cette croissance en termes de progrès, Christian Laval?
Oui, alors bon, moi ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, vous les avez prononcé le terme, un des termes absolument essentiels de notre problème, qui est celui de l'efficacité. Ce que j'ai plus particulièrement étudié, précisément, c'était ce qui émerge du protestantisme dont parlait Alain Gras tout à l'heure, et puis d'une série de formations religieuses. C'est l'idée de l'homme efficace qui doit mettre en valeur, qui doit faire prospérer au fond ce que Dieu a donné aux hommes. Je veux dire, cette idée de don de Dieu est, me semble essentielle, et cette idée qu'il faut travailler pour la gloire de Dieu. Et le protestant puritain, en effet, va s'attacher, comme le montre Max Weber, à être efficace dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va manifester par sa conduite professionnelle, par sa conduite dans la vie, des comportements de maximisation qui appartiennent, qui relèvent de ce qu'on appelle l'économie moderne contre la routine, contre les façons de faire traditionnelles. Donc la question sera en permanence posée de l'efficacité économique, du geste productif, de l'activité productive. À chaque fois, il s'agira donc de maximiser un résultat, de minimiser les dépenses, le coût, etc. Ce qui nous paraît aujourd'hui, au commun des mortels, quelque chose de naturel, mais qu'il ne l'était absolument pas. Oui. Je veux dire que précisément, l'idée d'une appartenance communautaire, par exemple, l'idée de l'entretien des liens, des vertus dont je parlais, paraissait beaucoup plus important que cette idée d'efficacité économique. Et je crois que l'utilitarisme, dans toutes ses composantes, que ce soit une composante doctrinale, théorique, ou que ce soit l'utilitarisme commun des façons d'être et de se représenter les choses, cet utilitarisme est porté par cette idée que désormais, nous entrons dans un monde où il s'agit en permanence d'être efficace, pas seulement dans le domaine productif, mais maintenant et progressivement, hein, maintenant dans tous les domaines de son existence, l'idée d'efficacité, je dirais même l'idée de performance, est quelque chose qui a gagné les esprits au prix de transformer cette existence en souvent une espèce d'enfer.
Oui. Alors l'enfer, c'est quoi du progrès à l'ingrat?
C'est les autres. Mais... Je crois qu'effectivement, la notion de performance qui est liée à celle d'efficacité modifie complètement la donne, surtout au XIXe siècle, parce qu'à ce moment-là, l'objet technique va apparaître comme centré sur un rapport quantitatif au monde et non plus un rapport qualitatif. L'objet technique va donner en fait un sens à l'histoire. Et c'est pour ça qu'il rentre très bien dans le mécanisme de l'utilitarisme et de l'intérêt limité des hommes par rapport au désir des économistes et des entrepreneurs capitalistes, parce que à partir du moment où on a un objet, on pourra quantifier le progrès. On pourra dire, voilà, par exemple, on va plus vite. Grâce au train, on va plus vite qu'avec des diligences. Mais les effets seconds de ce train, tout ce qu'il entraîne avec lui, combien ça coûte en termes sociaux, en termes de dégâts, ça n'existe plus. Et on a ainsi un indicateur du progrès qui va s'infiltrer partout dans notre mode de pensée.
D'accord. Alors, on va aborder un point particulièrement sensible, c'est celui de l'épuisement des ressources. C'est ce que vous veniez de dire tout à l'heure, Alain Gras. Et les dégradations, les effets pervers, en quelque sorte, de cet itinéraire du progrès. Alain Gras, vous qui avez particulièrement développé ce thème dans votre remarquable ouvrage « Le choix du feu ».
Ce n'est pas un saut que nous faisons, mais il est vrai que dans l'imaginaire, c'est un saut parce qu'on s'est aperçu des effets négatifs de cette façon de voir les choses, d'une histoire, d'une technique qui nous donnerait le sens du progrès, enfin qui serait le progrès, qui donnerait le sens de l'histoire. On s'en est aperçu il y a des gens... En 73, peut-être le Club de Rome a été le premier à lancer un appel.
On parlait de la croissance zéro à cette époque.
Oui, la croissance zéro, oui. Puisque même si Commensal, président de la CE, était partisan de la croissance zéro. Donc il y a eu à ce moment-là, une prise de conscience, mais qui effectivement a été rapidement éteinte par toutes sortes d'événements, aussi bien politiques qu'économiques, et ce ne ressort qu'aujourd'hui. Cela dit, je crois que les racines de cette aventure dangereuse, et je dirais même morbide, de l'Occident, elles sont beaucoup plus anciennes. Alors, est-ce qu'elles sont dans les théories économiques des anglo-saxons du XVIIIe ou du XVIIe ? Sans doute, mais je pense aussi qu'il y a eu un abandon d'un principe que moi, je crois, à l'œuvre dans toutes les civilisations, y compris la nôtre jusqu'à un certain moment. Savoir qu'on savait que la technique est un fait social, que donc, sans le dire, enfin, j'étais pas sociologue ni anthropologue, mais on savait qu'il fallait pas bouleverser les choses comme cela, qu'il fallait pas autonomiser un élément de ce qui était quand même un élément intégrant de la société, sans que tout le monde a un rapport avec la technique. Okay. Et au XIXe siècle, il y a eu l'arrivée de cette machine à vapeur qui nous a fait perdre la tête. On s'est avancé dans une histoire qui était celle de la puissance, et l'homme, à ce moment-là, a libéré, au fond, tous ses instincts qui, j'aime pas le terme instinct, mais enfin, disons, tout ce qu'il avait construit dans son rapport, qui était un type prédateur avec la nature. Mais on faisait de la petite prédation, on était des gentils prédateurs.
Et maintenant, on est des grands méchants.
Et on devient des grands méchants, parce qu'on se laisse aller. Et on dispose de la puissance avec le charbon, avec l'énergie fossile, on dispose d'une puissance extraordinaire qui est dans nos mains, que l'on peut garder, que l'on peut justement délocaliser. C'est ça. Alors, la différence avec le capitalisme, c'était pas l'objet de Christian Laval, mais je pense qu'il aurait pu peut-être y avoir un capitalisme restreint s'il n'y avait pas eu la machine à vapeur. Le capitalisme a explosé avec la machine à vapeur parce qu'il a permis une délocalisation. Le néolibéralisme et les échanges ont été multipliés d'une façon extraordinaire par la machine à vapeur. D'abord le train et puis les bateaux à vapeur, l'avion ensuite, etc.
D'accord. Mais vous dites quand même que la prise de conscience, même si elle est relativement récente, elle est bien réelle quand même, Christian Laval.
Oui, enfin, je voudrais aborder, répondre un peu à...
Allez-y, répondez.
Enfin, alors, répondre. Ouais. En tout cas, apporter juste une petite nuance. Moi, je crois qu'au fond, le développement de la technique, le développement de la production, donc je crois qu'Alain Gras sera d'accord, sont quand même intimement liés à une série de ruptures mentales et intellectuelles qui, disons, ont créé un terrain extrêmement favorable à cette expansion, à cette explosion de la technique et de la production de type capitaliste. Je crois que l'idée que le monde ancien a d'abord explosé sur le plan intellectuel, spirituel, mental, etc., me semble chose de fort. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des forces économiques qui ont joué sur ce niveau mental et intellectuel, mais en tout cas, il a fallu faire sauter des verrous. Et ça, je crois que c'est quand même très important. Depuis peut-être les débuts des sociétés organisées, effectivement, il y avait un système de normes. Et Alain Gras l'a bien dit, ces normes consistaient à intégrer les différents éléments d'une société, que ce soit les éléments de représentation, les éléments de la vie quotidienne, les rapports de parenté,
les liens
entre les gens, et les systèmes techniques étaient fortement impliqués dans ce que Marcel Mauss appelait le fait social total. Et ce qui est apparu avec la modernité, c'est au fond une fragmentation extrêmement forte des différentes sphères de la société, le tout étant néanmoins intégré dans une nouvelle idée de l'homme, guidée par son intérêt individuel, à la recherche du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et cette idée qui émerge accompagne le capitalisme et, au fond, va légitimer toutes les aventures de ce capitalisme et tous ses avatars.
De ce capitalisme triomphant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment même où tout le monde s'aperçoit des limites technique, climatique, sociale, culturelle de ce capitalisme sans limite, à ce moment même, on se rend compte qu'il y a un formidable fossé, une contradiction énorme entre l'idée maintenant que nous sommes faits de nous, c'est-à-dire toujours à la recherche de la plus grande puissance, de la plus grande richesse, et en même temps l'impossibilité de continuer. Je crois que là, ce que nous pointons Alain Gras et moi-même, dans nos ouvrages respectifs, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler une crise extrêmement profonde, une crise de civilisation qui est aussi une crise de représentation, qui n'est pas seulement une crise du climat, des systèmes de vie dans lesquels nous sommes, mais qui est aussi une crise de représentation, c'est-à-dire qui sommes-nous et qu'avons-nous fait au fond de ce monde. Donc, il s'agit de réinterroger l'ensemble des systèmes de représentation, leur évolution, c'est-à-dire revenir au fond sur 3, 4 ou 5 siècles et peut-être plus
précédent,
d'évolution qui nous ont conduit à cette image de l'homme que nous sommes donnés et qui désormais est impossible.
Et alors, quels sont justement les risques concrets de ce capitalisme que l'on croyait triomphant et unique modèle ? C'est les risques les plus immédiats, c'est quoi ?
Enfin, pour répondre à votre question,
rebondissez.
Je voudrais juste rebondir parce que je suis entièrement d'accord. Et justement, bien que je parle de technique parce que j'aime bien parler d'objets concrets en tant que socio-anthropologue, je pense que c'est un problème de représentation et que la solution, elle viendra d'un changement de représentation. Elle ne viendra pas de petites politiques à court terme.
Mais ça veut dire long terme, ça ? Un changement de représentation,
C'est à long terme, mais bien sûr, ça se passera à long terme, mais c'est la seule solution.
Mais alors, à court terme, on fait quoi ?
Alors,
enfin, on y viendra tout à l'heure, mais enfin, je veux dire...
À court terme, justement, je ne suis pas capable de vous dire ce que les hommes politiques ne peuvent pas faire eux-mêmes. Hein. Mais il reste que, justement, à court terme, c'est au moins prendre conscience, s'apercevoir que le roi est nu et que si l'on continue comme ça, on va à la catastrophe. C'est certain. Donc, si on est persuadé, si nous sommes tous persuadés que l'on va à la catastrophe, on trouvera des solutions. On sera prêt à modifier notre mode de vie. On sera prêt à trouver d'autres rapports avec la nature. On arrêtera avec cette prédation continuelle des forces.
Alors, je crois que vous disiez dans votre ouvrage, à quelque part, qu'il y avait justement un certain nombre de forces, on va dire, conservatrices qui s'inscrivent en faux contre ces risques et qui, pour des raisons multiples et variées que vous avez développées, démontrent qu'en fait, non, il n'y a pas le feu, si je puis dire, en reprenant,
oui.
Et que l'irrémédiable n'est pas sûr, qu'il y a d'autres schémas et qu'après tout, bon, les choses peuvent peut-être continuer de cette façon. Il y a beaucoup de forces qui vont dans ce sens. Je crois que c'est vous, Christian Laval, qui faites des développements sur ce point. Des résistances très fortes à cette prise de conscience qui, vous le disiez tout à l'heure, a quand même très sensiblement avancé. Et dont vous faites, cette prise de conscience, des conditions absolument nécessaires pour trouver d'autres voies.
Oui. Mais je crois que Christian Laval en parle plus que moi
de ces résistances. Oui, c'est plutôt Christian Laval, oui, d'accord. Hein. Les résistances, c'est...
Oui, je crois que...
Enfin, les bonnes raisons, les bonnes mauvaises raisons, en quelque sorte. Hein.
Voilà, si on se présente au fond cette société et cette économie comme une espèce de machine folle qui court à l'abîme, je crois qu'effectivement, les servants de la machine,
oui, c'est ça.
Ceux qui en sont en quelque sorte les agents, les fonctionnaires, les conducteurs et qui conduisent cette locomotive folle et qui ne sait pas où elle va et qui accélère sans cesse, ont évidemment, je ne sais pas s'ils ont intérêt, ils n'ont peut-être pas plus intérêt que quiconque, mais en tout cas, du poste où ils sont, de la position qu'ils occupent, ils sont vraiment, me semble-t-il, absolument incapables de prendre le recul nécessaire, ouais. Et ils font tourner les choses. Et évidemment, ils y sont contraints par toute une série de liens qui sont de toute nature, des liens économiques, etc. Et puis des intérêts. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les pays dominants, les classes dominantes, de façon générale, sont très peu prêtes à consentir au sacrifice. Mmh. Les sacrifices, c'est pour les autres.
C'est-à-dire
précisément ceux qui bénéficient le moins du système économique et technique présent. Et donc, la question qui se pose, elle est double, elle est culturelle, on l'a dit, c'est un problème de représentation, c'est aussi un problème social, c'est-à-dire, au fond, les différents groupes sociaux, classes sociales, n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes positions, ni les mêmes chance en quelque sorte de pouvoir modifier le système existant. Donc quand on parle de basculement dans un autre système, évidemment la question se repose, disons-le franchement, d'une révolution non seulement dans les têtes, mais une révolution également dans le système sociopolitique.
Un complément, vous, de votre côté
oui, parce que je pense que dans les formes nouvelles du capitalisme du 20e, surtout du 21e siècle, c'est effectivement l'avènement d'un seul concept de l'homme, qui est celui de l'homme consommateur, et qui se traduit dans l'outil épouvantable, morbide, qu'est le PIB. Puisque le PIB ne compte que les échanges marchands. Il ne compte justement pas, vous parliez de Mauss, le don. Ce qui est essentiel dans la solidarité, ce qui est essentiel dans les relations entre les hommes.
Celui-là rentre pas dans le PIB.
Tout cela ne rentre pas dans le PIB. Or, donc le PIB est une machine à broyer l'humanité. Et il est évident que dans le PIB, la technique joue un rôle considérable parce qu'elle est toujours dans l'échange marchand, elle. Et je parlais du iPod tout à l'heure, mais tous les gadgets qu'on sort à Noël, tous les produits visuels, audiovisuels qu'on sort à Noël, rentrent pourtant dans notre maison. Et ils représentent des échanges avec les enfants, ils représentent des échanges entre les adultes. Mais tout cela sont des échanges marchands. Et tout ce qui est de l'ordre de l'affect, tout ce qui est dehors des relations sociales qui ne se mesurent pas sur un marché quelconque, tout cela, le PIB ne le voit pas. Donc c'est en cela que, vraiment, nous allons de plus en plus dans une situation dramatique en raison de la manière dont nous calculons la croissance. Mmh. Vous aviez parlé des croissances tout à l'heure, et il est évident que la manière dont nous mesurons la croissance est une absurdité.
Mmh. D'accord. Ce n'est pas simplement qu'une quantité économique.
Non.
D'accord. Très bien. Alors, Alain Gras, vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur ce que vous percevez comme les principaux risques, on va dire, sur le court moyen terme. Est-ce que c'est d'abord un risque sur la fin des énergies renouvelables ? Est-ce que c'est plutôt des tensions qui peuvent générer des conflits extrêmement forts entre les différents pôles mondiaux, nord-sud, riches-pauvres, etc. ? Comment vous voyez les choses sur ce plan ? On est toujours dans le constat.
Oui, bon, je ne fais pas de géopolitique.
Bien sûr,
donc,
non, mais...
Je ne peux pas dire exactement comment... Je ne peux même pas dire... du tout comment les choses vont évoluer dans les rapports entre les grands de ce monde, entre la Chine et l'Amérique. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un manque d'énergie qui va être flagrant au fur et à mesure que les CPI vont se développer. Donc la question énergétique va être la première question, avec les matières premières, ça va ensemble, hein, puisque le feu transforme les matières premières. Donc cette question des matières premières et de l'énergie va être décisive pour l'avenir du monde, et à très court terme. Est-ce que nous avons atteint le pic de pétrole ou est-ce que nous allons l'atteindre en 2012 ou en 2017? De toute façon, c'est à très court terme.
Ouais.
Et sans aucun doute, il va y avoir là un bouleversement radical. Cela dit, je pense que les gens qui pensent l'avenir du monde et qui sont dans les leviers de pouvoir le savent, ça. Et donc, c'est le peuple qui va subir les conséquences et pas les puissants, à mon avis.
Tout à fait. Le problème, c'est que, pour prendre un exemple que Christian Laval développé tout à l'heure, l'habitant des banlieues en France, lui, le pic wall, c'est pas vraiment sa préoccupation. Hein. Donc, il y a probablement un travail pédagogique, à l'image un peu de ce qu'a fait Al Gore et peut-être le premier commencement aussi des Grenelles de l'environnement. Est-ce que dans ce domaine, vous avez l'impression de la sensibilisation qu'on avance? Il semblerait qu'on commence à avancer vraiment.
Oui, mais encore une fois, on retrouve ce problème à partir du moment où on établit un lien entre l'appropriation marchande du monde, qu'Alain Gras a bien rappelé. Le principe dans lequel nous sommes, c'est cette appropriation marchande qui entraîne ce développement illimité, au fond, de la production et de la consommation en faveur plutôt de certaines catégories de la population mondiale et pas de toutes. Évidemment, la question, c'est de savoir comment on peut limiter, ou réduire, ou passer à autre chose, alors que, au fond, ceux qui sont en situation, comme on dit, de responsabilité, sont quand même ceux qui sont plutôt du côté des bénéficiaires du système en question. Je veux dire qu'il leur faudrait s'imposer à eux-mêmes une espèce d'assaise qui leur est difficile. Je pense, on le voit aujourd'hui avec les États-Unis, avec les dirigeants américains et d'autres pays développés. Je crois qu'Alain Gras dit quelque chose de tout à fait important. C'est le niveau de conscience des dirigeants. Et je crois que les dirigeants économiques savent aujourd'hui, les dirigeants économiques et politiques, ils savent aujourd'hui quels sont les risques climatiques. Ils savent, du point de vue de la finance mondiale, quels sont les risques de cette course folle et non contrôlée. Ceci est connu. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une voiture qui n'a plus de frein que l'on sait comment faire. Moi, le risque, je le vois dans le fait que quand l'incendie s'est déclenché, comme le dit bien Alain Gras, quand on est dans l'incendie, il n'est pas évident que les comportements coopératifs et collectifs et solidaires l'emportent sur le chacun pour soi. Et une des craintes que j'ai, c'est que dans un système qui a à ce point développé les logiques du chacun pour soi, au fond, dans l'incendie, ce que nous avons fait de nous-mêmes l'emporte sur ce qu'il faudrait que nous devenions. C'est-à-dire, au fond, que ce soit la fuite de chacun, chacun essayant de tirer à lui, au fond, se préserver un petit peu, se mettre dans des îles désertes peut-être, ou s'enfermer dans des quartiers. Les ghettos, vous parliez des banlieues, les ghettos aujourd'hui, c'est plutôt les ghettos de riches. Je veux dire qu'on voit bien qu'il y a des murs aujourd'hui dans les quartiers, dans les villes, dans les centres urbains, etc. Les riches se mettent à l'abri, derrière des clôtures et derrière des vigiles. Bon, donc on voit bien...
Mais les murs ne tiennent pas longtemps.
Oui, ils ne tiennent pas longtemps. Et bien justement, c'est ça le problème. C'est que pour l'instant, en tout cas, ils s'enferment. Et ils s'enferment mentalement et ils s'enferment physiquement, géographiquement et socialement. Donc, je crois que et scolairement, puisque vous n'avez pas de travaux sur l'école, on le voit bien. Je veux dire que les écoles, les lycées, c'est maintenant par catégorie sociale, en quelque sorte. Donc, c'est cette logique de l'enfermement de chaque groupe social à commencer par ceux qui ont les moyens de se protéger des autres, qui est, me semble-t-il, la menace, et donc qui pose un problème fondamental, qui est celui donc de la solidarité et de l'égalité. C'est-à-dire que je crois que sans politique décidée en faveur donc d'un partage, je dirais non pas seulement de la richesse, mais aussi un partage des sacrifices, à commencer par ceux qui bénéficient le plus donc du système, cette question du partage est incontournable.
Cette question du partage, elle porte probablement sur une remise en cause profonde des politiques et des logiques des superpuissances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'en fait, maintenant, il y a des pôles. Ces superpuissances sont réparties sur plusieurs pôles.
Oui, mais l'image de la voiture qui n'a plus de frein et qui continue à foncer, parce qu'elle a mis son régulateur, qu'elle continue à rouler à 130 km/h sur l'autoroute.
Ce n'est pas très, très optimiste, tout ça.
Je crois que c'est très bien trouvé, c'est ça. Et ils sont là, ils ne savent plus que faire. Mais le grand risque est précisément que, puisque... tout va aller mal, c'est très probable. On va se replier sur soi et les intérêts privés, les intérêts des catégories vont l'emporter, des catégories sociales les plus privilégiées vont l'emporter sur le partage. J'ai mes amis du mouvement de la décroissance qui croient à la décroissance dans la joie de vivre et qui appellent de leur vœu la catastrophe. Moi, je crois que la catastrophe, elle va faire grincer les dents, elle va être très très dure pour tout le monde. Mais moins pour les puissants, moins pour ceux qui sont riches aujourd'hui. Cela dit, l'ordre du monde va être bouleversé. Alors, ce qu'il faut, c'est justement prendre conscience de cette volonté de non-partage qu'ont les puissants. Mais évidemment, cela appelle à des mouvements politiques d'un tout autre ordre, ou à une prise de conscience qui, je ne sais pas par quel mouvement elle peut s'exprimer.
Bien, et bien écoutez, nous allons marquer une pause et nous allons aborder dans une troisième partie des pistes sur lesquelles on peut s'inscrire pour trouver des voies et moyens pour faire autrement, la solution en quelque sorte. À tout à l'heure. Nous allons reprendre et traiter la troisième partie de notre réflexion pour rechercher les voies des moyens, une autre idée et un autre itinéraire pour le progrès. Alors, on l'a bien sûr un petit peu effleuré dans le constat, mais on peut peut-être partir de grandes idées que j'ai relevées dans vos ouvrages. La première, c'est une autre manière de penser et de vivre, ce que vous dites, Christian Labal. Politique de lien social, politique de société, et sur le don, la notion de don, peut-être vous allez pouvoir y revenir. Et en ce qui concerne Alain Gras, une autre idée pour éteindre l'incendie, s'extraire du culte de l'urgence et de la vitesse, réorienter la recherche et le développement, privilégier les circuits courts. Alors voilà, on en est là. Christian Laval, qu'est-ce que vous nous dites après ce constat qui, bien entendu, ne me paraît pas particulièrement optimiste?
Non, il est certainement pas optimiste. Bon, évidemment, la question que l'on aborde maintenant est un peu différente et un peu décalée par rapport au type de travail de type historique ou généalogique que j'ai voulu faire. Mais enfin, je ne m'abstiendrai pas de mon devoir de citoyen du monde de donner peut-être un certain nombre de pistes donc, qui ne sont pas les pistes d'un chercheur ni d'un militant politique, évidemment. Mais enfin, si vous voulez, à partir du moment où on tient à cette idée qu'on a fait passer en quelques siècles, au fond, on est passé d'une logique du lien, de la solidarité, de la communauté, dans des formes anciennes, dans des formes religieuses et très inégalitaires, évidemment. Mais enfin, il y avait néanmoins un certain nombre de préoccupations qui ont disparu au profit de l'intérêt individuel. Voilà. Et au fond, nous sommes entrés dans une logique de l'intérêt qui doit s'agréger, faire un intérêt général, etc. Nous avons vu à quoi ça menait, c'est-à-dire précisément au constat que nous avons fait. Il faut revenir sans doute à une politique du lien social, c'est-à-dire se dire, au fond, que ce n'est pas forcément dans l'accumulation des biens, dans l'appropriation marchande illimitée, que nous trouverons ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire au bonheur. Je crois que nous ne reviendrons pas sur cette idée qui s'est développée, surtout au XVIIIe avec Bentham que vous avez cité, cette idée du plus grand bonheur, etc. Je crois que c'est quelque chose qui est enraciné. Bon, mais par contre, l'idée même de bonheur peut être considérablement modifiée.
Mais est-ce que vous croyez que ce que vous êtes en train de dire, mais je posais la question à vous deux, c'est pas une vision du monde occidental? Parce que est-ce que le Chinois, lui, il a cette même perception de la prééminence du lien social, ou est-ce que tout simplement il veut se rapprocher sur le modèle précédent du monde occidental et sur les mêmes itinéraires? Sa notion de progrès, sa notion de bonheur à lui, le Chinois, on pourrait dire d'autres pays similaires, est-ce que ce n'est pas autre chose? Est-ce que ce n'est pas une vision à partir du point de vue occidental, ce que vous développez?
Non, mais je crois qu'Alain Gras a dit tout à l'heure que les principales victimes sont déjà désignées, les victimes de la crise climatique à venir. Je crois que nous avons cherché, avec succès, à convertir le monde entier à notre modèle. Bien. Donc nous avons amené les autres peuples du monde dans la catastrophe et nous précipitons, d'une certaine façon, les difficultés avec cette conversion. Bon, je crois qu'il est temps de dire, à commencer par soi-même, que nous ne pouvons pas continuer comme ça, à élargir sans cesse, je veux dire, les participants à la marche à la catastrophe. Bon, je crois qu'il est temps de dire, enfin, de façon rationnelle, que, au fond, les rapports sociaux doivent changer autour d'un certain nombre d'idées qui ne sont plus celles, bon, du partage, mais ne celles de la croissance illimitée. Mais attention, il est aussi évident que nous ne pouvons pas dire aux peuples les plus pauvres qu'ils doivent se contenter purement et simplement de leur pauvreté. J'ai en effet quelques méfiances à l'égard du mot d'ordre de la décroissance adressé aux autres. Je crois que la décroissance, c'est intéressant pour nous. Elle doit s'accompagner d'une dimension d'égalité, c'est-à-dire de se dire comment nous, en faisant moins de dégâts, nous pouvons en même temps permettre aux autres de se développer, le mot lui-même doit être analysé, mais de se développer, en tout cas, d'accéder à un certain nombre de biens dont ils ont besoin, mais lesquels? Tous les Chinois ont-ils besoin d'une automobile? Est-ce qu'ils doivent faire comme nous? Est-ce que toute la Chine doit être couverte d'autoroutes?
D'un portable.
Bon, ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas la chance? Au fond, est-ce que c'est pas ça le défi maintenant? Est-ce que ces peuples émergents, comme on dit, ces économies émergentes, n'ont pas une chance, peut-être la dernière, au fond, de développer un modèle qui soit autre que le nôtre et beaucoup moins coûteux en termes sociaux, en termes de liens sociaux et en termes d'environnement?
Encore faudrait-il sans doute, Alain Gras, que ces peuples comprennent que, en définitive, c'est un jeu qui se joue au moins à deux, comme le tango. On est solidaires et que l'interdépendance est là pour l'ensemble des joueurs.
Oui, oui, mais bien sûr, mais je voudrais juste revenir sur un point, la décroissance pour les autres et pas pour nous.
Absolument.
Effectivement, je pense qu'on ne peut pas parler de décroissance aux paysans africains. Mais par contre, on peut ne pas lui parler de croissance. Parce que le grand drame de la croissance dans ces pays-là, c'est qu'on transforme des gens qui essayent de survivre avec des cultures vivrières en producteurs de valeurs marchandes à travers des cultures maraîchères. Et ça a été général pour toute l'Afrique et l'Asie. Et on les fait rentrer dans un système où ils n'ont plus leur place, où de toute façon ils seront écrasés. Et ils viennent ensuite alimenter la population des bidonvilles, des villes. Donc la décroissance, évidemment, ce n'est pas le même sens que ça va pour nous et pour eux. C'est une autre forme de croissance.
C'est la décroissance supportable. Et par qui ?
Et oui, mais c'est, en tout cas, c'est une amélioration de leurs conditions de vie, mais qui ne fait pas entrer dans notre mode de vie nécessairement à nous. Parce que entrer dans notre mode de vie à nous, c'est venir dire, au contraire, tomber encore plus bas, de passer de paysan à la campagne à habitant d'un ghetto urbain.
Donc il ne faut absolument pas reproduire les schémas sur lesquels on...
Non, et justement aussi pour tenter d'échapper à ce qui nous menace, à savoir justement la crise énergétique, il faut aussi réorienter toute notre recherche et développement vers des technologies qui soient douces, une technologie pacifiée dans nos rapports avec la nature, une technologie qui essaye d'utiliser à nouveau les autres éléments de notre environnement qui ne sont pas simplement le feu et l'énergie fossile. Donc il y a toute aussi une vision technologique, malheureusement, qui ne passe pas du tout au niveau des classes dirigeantes. Elles sont obsédées, et même lorsqu'elles réfléchissent à des énergies renouvelables, vous voyez bien qu'on atteint le sommet de l'absurde avec le bioéthanol. Oui. Elles ont une incapacité à penser une autre orientation.
Alors c'est quoi le sommet de l'absurde pour le bioéthanol ?
Écoutez, on utilise justement ce qui est fait pour nous permettre de survivre physiquement. On l'utilise pour nourrir des machines, non plus pour nourrir les hommes, alors que les hommes ont besoin de ça. Aussi bien, on s'aperçoit maintenant aussi, même en Europe, on va manquer de blé, enfin, les prix augmentent et tout. Et on voudrait stériliser des centaines de milliers d'hectares pour nourrir nos machines, mais je crois que là, on atteint les sommets de l'invraisemblable.
Un complément sur les solutions,
oui,
Christian Levan.
Au fond, je crois qu'à partir du 19e, on a essayé de penser une alternative au capitalisme débridé. Ça s'est appelé le socialisme, le communisme, le marxisme. Cette alternative est, semble-t-il, épuisée, bien que ses causes restent toujours là. La question, me semble-t-il, est de renouveler cette pensée critique. Je crois qu'il y avait un des grands défauts dans le communisme et dans le marxisme, c'est de penser que du capitalisme le plus développé sortirait mécaniquement une nouvelle société qui s'appellerait le socialisme et le communisme. Au fond, Marx n'a cessé de penser qu'il fallait développer les forces productives le plus possible, parce que plus le capitalisme serait développé, plus le marché universel serait installé, plus on serait près du communisme. Je crois que cette idée est fausse. Je crois qu'aujourd'hui, le marxisme, de ce point de vue-là, est à revoir complètement. Je veux dire, la pensée critique du capitalisme est à revoir. Néanmoins, il y a des choses tout à fait fondamentales. Moi, il me semble que ce que Marx avait vu, c'est-à-dire, au fond, le fait que la société capitaliste, ça soit aussi une crise du lien social, et que ça soit, comme il le disait, les eaux glacées du calcul égoïste, tout ça me semble absolument juste. Deuxièmement, il a vu quelque chose aussi de très important, même si ce qu'il en a fait sur le développement de la pauvreté à une époque a pu être déconsidéré. Il me semble que ce qu'il a particulièrement bien vu, c'était le rapport entre cette croissance illimitée et la dynamique des inégalités. C'est-à-dire qu'au fond, on se voit bien avec le néolibéralisme, à un moment donné, on s'est dit il y a trop d'égalité, il y a trop de revendications sociales, il y a trop de solidarité. Les mécanismes de solidarité, au fond, qui encadrent et limitent, au fond, un certain nombre de dégâts sociaux, sont de trop. Et au fond, ce dans quoi nous sommes engagés depuis 25 ans, malheureusement, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi ? Parce que nous ne cessons d'inciter chacun en diminuant la solidarité, nous ne cessons d'inciter chacun à développer des comportements individuels anti-solidaire. On le voit pour les retraites, la sécurité sociale, la maladie, etc. Au fond, toutes les politiques néolibérales menées aujourd'hui ne font qu'aggraver la situation et retarder la solution. Donc, si l'une des premières solutions, ce serait de revoir l'ensemble des politiques menées aujourd'hui dans les pays occidentaux, de leur dire stop et de faire le contraire, de revenir au moins sur des politiques de solidarité et d'égalité qui empêcheraient, je dirais, la prolifération des comportements de destruction. Je crois, on a parlé de la machine, c'est pas très gai ce que je vais dire, mais enfin, il y a quelque chose qui ressemble un peu à un cancer, si vous voulez. Un cancer, c'est-à-dire qu'au fond, en multipliant les petites cellules malades, poursuivant chacune leur propre intérêt, au fond, on détruit l'organisme d'ensemble. Alors cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est tout aussi dramatique que celle que nous avons utilisée ce matin, et cette émission, évidemment, n'inspirera pas le plus grand optimisme et la plus grande joie de vivre, ça va de soi.
Mais elle peut aider à la prise de conscience, hein, c'est ça.
Essayons de réfléchir qu'au fond, nous avons des médecins, nous avons une santé publique, etc. Mais au fond, l'écologie d'un côté, la sociologie dans classique, la vraie, pour moi, la vraie sociologie n'a cessé d'avertir, au fond, des dangers que nous courions à poursuivre dans ce que les Grecs appelaient la pléonexia, c'est-à-dire cette accumulation de biens, cette recherche de l'acquisition du toujours plus. Nous avons finalement lâché le monstre et nous sommes devant maintenant les plus grands dangers.
Le monstre ? C'est quoi pour vous, Alain Gras?
Le monstre, c'est ce qu'il vient d'être indiqué. Il a été bien décrit, mais c'est le même. Sauf que pour moi, il a d'autres aspects, plus, disons, plus mécaniques. Mais c'est le même. Et il est évident que la manière dont nous avons construit notre monde nous rend individualiste, nous rend sensible simplement à notre intérêt immédiat. Je prends l'exemple de ce que j'appelle les macrosystèmes techniques, tels l'EDF ou les systèmes de transport. Mais l'EDF, c'est le plus visible. Quand vous vous branchez sur une centrale nucléaire, mais vous n'avez aucune idée de la manière dont est construite cette centrale nucléaire, dont des conséquences qu'elle va avoir sur votre environnement, sur l'environnement de certains qui vont recevoir les déchets nucléaires après ou qui vont devoir les traiter. Vous avez une incapacité à savoir d'où vient le confort que vous recevez de cette société. Donc la solidarité, elle est détruite par l'instrument technique lui-même. Ça fait partie de cette manière de penser le monde. Et je pense que si on revenait à des technologies où l'homme serait débranché des grands systèmes, où on réinventerait des technologies qui permettent une certaine autonomie, alors on reprendrait conscience de ce qui nous lie les uns aux autres. Mais il faudrait qu'on ait la maîtrise de notre production d'énergie. Il faudrait qu'on ait la maîtrise de notre, peut-être développement technique, c'est un bien grand mot, mais qu'on ait au moins quelque chose où l'on puisse intervenir et qu'on ne nous offre pas cela en disant « Allez-y, consommez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'avez rien à craindre, nous veillons. »
Donc la voie que l'un et l'autre vous préconisez, c'est à base de répétition, la formation et la prise de conscience pour que finalement, puisqu'il n'y a pas de grand arbitre super au-dessus de toutes les superpuissances, il faudra bien que, à quelque part, quelqu'un coordonne cette prise de conscience. Ça, ça reste encore un vœu pieux. Mais en tout cas, on va peut-être essayer de terminer sur ce point par une conclusion de l'un et l'autre. Je reviens sur le titre de notre émission, une autre voie pour le progrès, un autre itinéraire, une autre idée. En conclusion, vous dites quoi ?
Bon, d'abord, je crois qu'il ne faut pas vraiment attendre grand-chose, si je puis dire, d'un sauveur. Je veux dire que ni Al Gore, ni aucun autre ne suffira à convertir les opinions publiques mondiales, surtout étant donné les systèmes médiatiques qui aujourd'hui façonnent l'opinion. Je ne crois pas qu'on puisse attendre ça aujourd'hui. Par contre, des mobilisations de masse, oui, des mouvements politiques d'une autre sorte, dont parlait tout à l'heure Alain Gras, qui sont encore à inventer, sans doute à inventer rapidement. Mais je crois que si on regarde un peu le passé du 19e, au fond, si nous nous reportions à 1830, au fond, une époque qui n'était pas tellement plus heureuse, enfin peut-être que beaucoup plus de gens croyaient encore au progrès, mais enfin, il y avait quand même des dégâts sociaux, en tout cas, terribles. Au fond, qu'on voit apparaître entre, disons, 1825 et 1845, c'est assez rapidement, au fond, des mouvements de pensée et des mouvements politiques qui vont changer la donne. Je crois que nous sommes à la veille de quelque chose qui pourrait ressembler à ça. L'épuisement aujourd'hui des alternatives au capitalisme qui sont nées au 19e siècle, cet épuisement-là, au fond, crée le terrain pour de nouveaux mouvements. Alors là, évidemment, je ne veux pas jouer aux prophètes, je ne sais pas ce qu'ils seront, mais enfin, en tout cas, si la société a horreur du vide, je pense qu'il y a une place vraiment pour de nouvelles formes de mobilisation. Je pense que ce n'est pas peut-être à mon âge que je vais me lancer là-dedans, je crois que ces mouvements-là, de cette sorte, appellent de nouvelles générations.
C'est les mouvements altermondialistes?
Je pense que pour une part, ce sont des mouvements altermondialistes, ce sont peut-être, mon espoir n'est-il pas fondé, hein, je suis encore accroché finalement à cette idée qu'on pourrait quand même transformer les choses et le monde et que rien n'est inéluctable. Je crois quand même effectivement que les hommes d'une certaine façon font leur histoire et leur destin, donc je crois qu'ils peuvent transformer leurs conditions de société. Néanmoins, je crois que effectivement, la jeunesse, une jeunesse aujourd'hui, n'est pas loin de se rendre compte que la vie qu'on leur prépare ne peut pas être celle de ces petits atomes individualistes à la recherche de leur bien-être. Parce que, tout simplement, ils savent que leur vie sera invivable. Alors, peut-être pas toute la jeunesse, mais enfin, une grande partie de la jeunesse aujourd'hui, je pense, peut être la chance du monde. D'accord.
Donc, un espoir dans ce grand environnement pessimiste, la jeunesse. Et alors vous, Alain Gras, vous concluez un de vos chapitres en disant « l'impossible comme solution ». Oui. Chaleur et décroissance, l'impossible comme solution.
Oui, parce
alors
que
c'est quoi
Mais parce qu'effectivement, tout ce que l'on pense semble impossible. Si on reste dans notre vision du monde qui est la nôtre, celle dont on vient de parler, tout semble impossible. Et comme nous courons à la catastrophe, il faut donc penser l'impossible. Il faut donc croire que l'impossible est une réalité. Et je pense que dans cette réalité, la première chose qui nous permettra d'ouvrir une fenêtre de l'imaginaire, c'est vraiment récupérer notre liberté. Notre liberté par rapport au destin, ce destin fatal qui est le progrès vu sous un angle technique ou économique, c'est récupérer notre liberté par rapport à notre avenir. Notre futur n'est pas déterminé. Nous sommes là et nous avons les moyens de le changer. Et effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas simplement chez les intellectuels comme nous, vieux barbons. Non, c'est au niveau des jeunes. On sent quand on fait des conférences, quand on discute avec eux, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et effectivement, c'est simplement peut-être la peur de ne pas tomber avec le reste du monde et de se dire qu'eux, ils ont encore quelque chose à faire dans ce monde.
Alors, vous avez en commun d'être pessimiste sur le constat, mais d'avoir un grand espoir sur les jeunes et peut-être aussi sur les politiques. Je crois que c'est le président Sarkozy qui disait quelque chose comme « l'art de la politique, c'est de rendre réalisable l'impossible ». Donc, les jeunes, les politiques...
Nous n'avons peut-être pas le même impossible.
Hein. D'accord. Bien, écoutez, je voudrais vous remercier tous les deux pour avoir participé à cette émission. Bravo pour toutes les idées et les réflexions que vous nous avez apportées. Donc, je rappelle que nous avons traité d'une autre idée du progrès, d'un autre itinéraire. Une vérité qui dérange, selon le film de Al Gore. Et je rappelle donc, en les remerciant une nouvelle fois, les parutions de nos deux intervenants, le professeur Alain Gras, Le choix du feu, aux origines de la crise climatique, paru chez Fayard, qui d'ores et déjà s'inscrit comme un grand succès auprès d'un large public, et Christian Laval, L'homme économique, essai sur les racines du néolibéralisme, paru chez Gallimard, qui déjà, lui aussi, a été reconnu dans les librairies. Merci à vous deux et restons sur cette idée que les jeunes seront notre salut. Merci à vous.